I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue à Lee et sa famille chez Ashley et son lama, un diaporama de photos, certaines un peu floues et mal cadrées, une famille heureuse partie pour se retrouver. Depuis quelques semaines, le site Airbnb est passé à l'offensive sur les écrans de télé et sur Internet pour redonner, s'il en était besoin, envie aux Français de partir en vacances. Mais cette publicité d'une minute reflète aussi le retour aux sources d'un site qui n'a pas été épargné par la crise du Covid-19, mais qui espère bien en sortir plus fort. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Chaque jour de la semaine, la rédaction se mobilise pour vous faire partager l'actualité économique et sociale, la vie des entreprises et de ceux qui ont un impact sur le monde. Une vingtaine de minutes, parfois plus, pour décrypter l'économie et comprendre les enjeux des années à venir. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une entreprise qui a changé la face du tourisme.
Bienvenue aux étables à Michel. Michel, c'est moi, le propriétaire. Donc, on va faire le tour du domaine. J'ai trois gammes de chambres. Donc, la première, c'est la standard. Voilà. Bon, ben là, il n'y a pas besoin d'oreiller. C'est de la paille bio. 235€ la nuit. À ce prix-là, il n'y a pas de porte. Hein, ça, je te le dis. Après, t'es réveillé à 6h tous les matins au chant du coq.
Pas sûr d'aller dormir chez un tel hôte, l'humoriste Maxime Gasteuil dans ses œuvres. En revanche, j'irai peut-être le voir sur scène quand les théâtres auront retrouvé un peu d'activité. Des milliers de Parisiens qui ont fui le premier confinement, mais pas forcément pour se précipiter dans les Airbnb de Michel ou de l'un des 4 millions d'hôtes répertoriés sur le site du groupe américain. En 2020, le site a perdu plus de 4,5 milliards de dollars rattrapé par la crise sanitaire. Un accident de parcours pour le Californien créé il y a 13 ans à San Francisco par deux jeunes diplômés. L'histoire raconte qu'en octobre 2016, ils n'arrivaient plus à payer leur loyer dans une ruelle de Soma, le quartier des startups de San Francisco. Leur appartement transformé en bed and breakfast va leur rapporter 1 000 $ en un week-end. Avec un troisième larron, ils vont jeter les bases d'une entreprise qui vaut aujourd'hui près de 110 milliards de dollars en bourse. Pour les Échos Week-end, Isabelle Lesniak a rencontré l'un des fondateurs d'Airbnb pour évoquer cette année 2020 si particulière pour la plateforme Internet, ponctuée par une entrée en bourse remarquée. Bonjour Isabelle Lesniak.
Bonjour.
D'abord, Airbnb, c'est l'histoire d'un véritable ovni dans le monde du tourisme avec une idée géniale ?
L'idée, elle est un peu vieille comme le monde, c'est l'idée de l'hospitalité, mais elle a été revisitée, modernisée et puis surtout monétisée par Airbnb. Au début de cette enquête, quand je me documentais, en fait, j'avais lu un papier de Bloomberg qui expliquait de manière assez humoristique que finalement Jésus était né dans un Airbnb, mais qu'il n'avait pas laissé de commentaires. Et en fait, ça en dit long sur le modèle Airbnb, c'est-à-dire l'idée, c'est évidemment de louer son canapé, pas trop cher, avec une vraie expérience authentique, des échanges avec les autres, des conseils en prélevant une commission, mais c'est surtout de pouvoir se baser sur un système d'évaluation entre voyageurs et loueurs. Et ça, c'était très malin parce que, en fait, ça instaure un climat de confiance pour les futurs visiteurs. Alors, il y avait des sites qui avaient déjà tenté le coup avant Airbnb, c'était Couchsurfing, HomeAway ou Verbio, mais l'expérience était moins bonne. En fait, l'interface était moins conviviale, les procédures étaient moins bien rodées pour le système de paiement, pour le service client. En fait, ce qui fait la différence de Airbnb, c'est que dans le trio de fondateurs, il y avait deux designers et un ingénieur, donc c'est une proportion renversée par rapport à ce dont on a l'habitude dans la Silicon Valley. Et les designers étaient évidemment très préoccupés d'avoir une expérience facile, conviviale. Alors ils sont beaucoup inspirés finalement de Steve Jobs et de l'iPod. Ils voulaient pouvoir assurer une réservation en 3 clics, et ça c'est très réussi.
On a beaucoup utilisé le terme de disrupteur à une époque, alors c'est un bien vilain mot, mais il s'applique parfaitement à la société californienne.
Parfaitement. En fait, Airbnb a disrupté la vieille hôtellerie classique. Ça correspondait à un besoin, notamment des millennials, qui trouvaient l'hôtellerie classique trop standardisée. Ils voulaient pouvoir louer des logements différents. Alors ça, il y en a sur Airbnb. On peut louer une yourte, un château, un phare, une cabane dans les arbres. Et puis aussi, par rapport aux hôtels classiques, Airbnb couvre tous les types de zones, c'est-à-dire pas seulement les centres-villes, mais aussi des quartiers périphériques, les villes et les campagnes. Et c'est finalement cette originalité, en plus de la relation plus ou moins authentique qui se crée avec le loueur, qui fait la différence. Quelquefois, on arrive à avoir une relation quasi amicale avec la personne qui vous loue un logement, même si c'est évidemment moins vrai qu'au début, puisqu'il y a pas mal de logements Airbnb qui sont devenus des locations standardisées et qui sont gérées par des agences désormais anonymes.
Airbnb est né en août 2008. Le site mettra 3 ans pour devenir ce qu'on appelle une licorne, une entreprise qui vaut plus $1 milliard, avec l'ambition rien de moins de réinventer le voyage. 13 ans plus tard, ils ont bâti une entreprise à la réputation mondiale. Mais Isabelle, ça n'a pas été sans mal ?
Ah non, ça a été compliqué dès le début. En fait, l'idée était tellement peu orthodoxe que peu y croyaient. Il y avait beaucoup de difficultés pour convaincre les investisseurs. Donc finalement, il leur a fallu 3 tentatives avant de véritablement décoller. Les investisseurs aussi étaient un peu dubitatifs par rapport à ce trio atypique de designers et d'un seul ingénieur. Donc ça, ils ne leur faisaient pas trop confiance. En fait, les fondateurs racontent une histoire de leur passé plus ou moins récent. En fait, ils avaient réussi à décrocher un rendez-vous avec Paul Graham. Donc Paul Graham, c'était le patron du Y Combinator, donc c'est un des investisseurs les plus en vue de la Silicon Valley, donc ils étaient très contents d'être reçus par lui, d'autant que Paul Graham les reçoit avec beaucoup d'enthousiasme, donc ils sont très contents, mais en même temps, c'est pas du tout le concept de la location de canapé qui plaît à Paul Graham, c'est le fait que pour arrondir leur fin de mois, parce que Airbnb marchait pas tellement bien, ils avaient lancé des boîtes de céréales avec le visage d'Obama et de McCain, donc c'était en plein pendant la convention démocrate de Denver en 2008. Et ça, ça avait très bien marché avec une énorme marge sur ces boîtes de céréales. Et Paul Graham avait trouvé que c'était vraiment une idée géniale, que ça montrait leur talent d'entrepreneur, leur imagination. Donc finalement, ils ont eu des débuts très compliqués. C'est seulement en mars 2009 qu'ils réussissent à décrocher un financement de l'entreprise de capital risque Sequoia. Et là, c'est vraiment le début de l'aventure avec des vrais moyens financiers et humains.
Dans un article à retrouver sur leséchos.fr, Anaïs Moutot, alors correspondante du journal dans la Silicon Valley, racontait aussi le doute de Paul Graham face à ce concept de logement chez des hôtes inconnus. Il leur disait « Les gens font réellement ça, mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez eux ?»«
Non mais ça va pas la tête !»
Finalement, l'idée s'est avérée excellente, surfant sur la mode des échanges d'appartements ou de maisons au début des années 2000 avec un modèle plus coûteux mais moins contraignant. Mais avec la crise sanitaire, le tourisme et les voyages n'ont pas été épargnés. Isabelle, Airbnb n'était pas immunisé ?
Non, il n'est pas immunisé. Donc les résultats publiés pour toute l'année 2020, fin février, l'ont montré. En fait, Airbnb a perdu 30% de ses revenus sur l'année, donc c'est beaucoup. Mais en même temps, les fondateurs avaient tablé à un moment donné sur 50%, et c'est beaucoup moins finalement ces 30% que des hôtels comme Marriott ou des agences de voyage en ligne comme Expedia. Expedia a perdu 67% sur l'année, et donc ses concurrents finalement ont encore plus souffert. En fait, il faut savoir qu'au moment du premier grand confinement, en avril 2020, c'est 72% des réservations sur Airbnb qui ont été effacées par rapport à avril de l'année précédente. Il y avait les séjours internationaux qui ont plongé des 2/3, et donc c'est vraiment, ça a été le moment sans doute le plus difficile de la jeune histoire de la société. Brian Chesky, qui est donc un fondateur et qui est maintenant le patron, le CEO, a comparé le Covid à une torpille qui est venue heurter le navire.
Il a coulé mon porte-avions.
Touché mais pas coulé le porte-avions Airbnb par la torpille de la crise. Isabelle, vous avez rencontré l'un des 3 cofondateurs pour les Éco-Weekends. Comment est-ce qu'il a vécu cette période ?
J'ai eu la chance de parler à ce cofondateur qui s'appelle Nate Blekarczyk, qui est l'ingénieur du trio et maintenant il est directeur de la stratégie. J'ai eu la chance de lui parler pendant en fait la demi-heure qui a suivi l'introduction en bourse au Nasdaq de Airbnb. Donc il était vraiment complètement estomaqué par ce qui était en train de leur arriver. L'IPO a été un incroyable succès à Wall Street et c'était un peu démesuré à ses yeux par rapport au moment qu'il venait de vivre, puisque évidemment ça a été une année très très compliquée avec cette chute des réservations, la nécessité de se séparer d'une partie du personnel. Et donc ça semblait un moment tout à fait irréel. Le patron français aussi de Airbnb, Emmanuel Maril, dit que c'était une année de montagne russe émotionnelle et c'est vrai que je l'ai senti assez secouée. Et au-delà de ce sentiment finalement d'irréalité, enfin ce qui frappe chez Nate Blekarczyk comme apparemment chez les deux autres que je n'ai pas eu au téléphone, c'est leur humilité. En fait, c'est vraiment étonnant de voir cette fraîcheur qu'ils ont conservée. Il n'y a pas du tout d'arrogance chez eux et ils sont assez émerveillés par ce qui leur arrive. Ils sont complètement dedans et c'est vraiment très rafraîchissant.
Ça, c'est le côté conte de fées, mais dans les contes de fées, il y a souvent des cauchemars. Ils ont vraiment vécu cette période-là comme un cauchemar ?
Oui, surtout la nécessité donc, de se séparer d'un quart des effectifs. C'est ce qui revient dans le discours de Nate Blekarczyk. Ça a un peu gâté l'année et la fin d'année en fanfare à la bourse. En fait, il dit que évidemment, c'était la bonne décision à prendre financièrement, mais que ça lui a vraiment beaucoup coûté. En fait, il dit que ça a été atroce émotionnellement. Alors, ils ont essayé de faire les choses le moins mal possible, surtout aux États-Unis où il n'y a pas vraiment d'État-providence. Ils ont accordé 12 mois de couverture santé aux gens qui étaient licenciés. Les gens qui étaient licenciés pouvaient garder leur matériel informatique. Ils ont pu, sur la base du volontariat, poster leur CV en ligne sur un site qui avait été spécialement créé dans l'espoir, évidemment, qu'il soit recasé ailleurs. Mais ça reste quand même un moment très difficile dans la vie de l'entreprise. En fait, Brian Chesky dit qu'il a fallu prendre 10 ans de décisions cruciales en 10 semaines pendant ce Covid. Et celle-là, les licenciements, a de loin été la plus compliquée à prendre.
La difficulté a aussi rapproché le trio de fondateurs. Tout au long de cette crise, nous nous sommes appelés quotidiennement entre nous, souvent plusieurs fois par jour, et nous avons réuni le conseil d'administration à distance chaque dimanche pour valider des décisions d'une importance capitale. C'est ce qu'a raconté Brian Chesky dans une interview au Wall Street Journal. Isabelle, la crise du Covid pourrait changer pas mal de choses dans l'économie, dans notre rapport au voyage, à ce qu'on appelle notamment le tourisme de masse. J'en avais parlé il y a quelques mois dans la story avec le fondateur de Voyageurs du Monde. Est-ce que cette crise peut aussi remettre en cause le modèle d'Airbnb ?
Paradoxalement, en fait, le Covid, plutôt que remettre en cause le modèle, a poussé Airbnb à revenir au modèle originel, c'est-à-dire à sa proposition initiale, qui était un logement un peu différent, combiné à une expérience authentique de location. Alors, ces dernières années, évidemment, avec le succès, Airbnb avait été tenté par une diversification un peu bizarre. Il y avait un journal de voyage sur papier glacé, de la production de documentaires, de la production audiovisuelle. À un moment donné, même Brian Chesky disait qu'il pourrait un jour acheter une compagnie aérienne. Donc ça, c'est évidemment plus du tout d'actualité. L'heure est au recentrage, avec un cadre un petit peu différent d'avant la pandémie, bien sûr. Alors tout d'abord, il y a une montée très forte des offres locales, surtout en ce moment. Donc il y a des clients qui espèrent voyager seulement à 50 km de chez eux. Et ça, ça a été très fort cet été. En fait, dans le monde, la moitié des réservations qui ont été effectuées cet été étaient à moins de 300 miles du domicile, donc 480 km du domicile des locataires. C'était très important de pouvoir rejoindre sa location en voiture et non pas par les transports en commun. Donc un Airbnb plus local et puis des réservations plus longues, selon un chiffre qu'Airbnb France a bien voulu partager avec nous. En fait, en janvier, les recherches de longs séjours, c'est-à-dire plus d'un mois en France, avaient progressé de plus de 70% pour l'année. Donc c'est vraiment une tendance lourde. Ce sont les gens qui vont télétravailler dans un Airbnb, par exemple les étudiants qui pourraient faire leurs études à distance ou des parents télétravailleurs qui n'ont pas d'enfants scolarisés et qui peuvent donc travailler depuis un lieu loué où ils l'entendent. Alors ce sont des séjours plus longs, souvent des logements entiers plutôt que simplement une chambre parce qu'évidemment sanitairement ça semble plus sûr et tout ça c'est assez bon pour les finances de l'entreprise.
Ouais, l'entreprise se tourne aussi vers les services, les expériences ?
Oui, alors les expériences, elles ont été lancées en novembre 2016. Finalement, finalement, c'était une manière de formaliser, de prolonger ce que beaucoup de propriétaires faisaient déjà, c'est-à-dire, par exemple, de louer des vélos en plus du logement, de faire visiter les vignes alentour ou de participer à des ateliers de cuisine. Et ça, c'est vraiment un segment que Airbnb veut développer. Ça correspond à cette idée d'expérience authentique et d'expérience différente. Alors, évidemment, longtemps, ces expériences ont été en présentiel. Maintenant, elles sont en ligne, mais elles continuent à la fois pour les particuliers. Par exemple, au moment des fêtes de Noël, il y avait des cours de cuisine vraiment très prisés avec les candidats Top Chef. C'est aussi une proposition qui plaît aux entreprises qui veulent continuer à faire du team building malgré la distanciation des équipes. On peut faire un atelier chocolat à distance avec ses collègues ou même des cocktails, c'est-à-dire qu'on vous envoie un kit par la poste de cocktails et le jour J, vous vous mettez avec un professionnel à vous préparer des mojitos ou des gin toniques. Donc ça, ça a pas mal marché à la place des fêtes de fin d'année en entreprise. Il y a beaucoup, beaucoup d'offres. Sur le site français, il y a 1200 expériences qui sont proposées et il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les budgets.
Thanks, Adina and Nasdaq, for the warm welcome. It's not lost on us how significant this moment is. You know, 2020 has been an incredibly difficult year for so many people. And we are so grateful and humbled to be here today.
Brian, qu'on entend ici, Nate et Joe étaient en visioconférence depuis chez eux le 10 décembre pour fêter l'introduction d'Airbnb au Nasdaq quelques minutes avant de faire participer de façon sonore les millions d'hôtes qui ont fait le succès du groupe. C'est sûr, ça change de la cloche qui salue traditionnellement l'ouverture des marchés financiers à Wall Street. Brian disait à quel point il était reconnaissant et heureux d'être là pour cet autre moment qui va marquer l'histoire de l'entreprise californienne. Isabelle, comment ça s'est passé ?
Alors, au départ, le prix de l'action envisagé était autour de 44-50 dollars. En fait, dès le premier jour de cotation, à la fin de la première journée, le prix de l'action valait 144 dollars. Donc, c'était vraiment une entrée fracassante. Et en fait, depuis donc ce premier jour de cotation en décembre, le cours a été multiplié par 3. Alors, c'est assez intéressant parce qu'il y avait beaucoup d'analystes de Wall Street qui ne suivaient pas la Airbnb jusque-là. Ils sont mis à couvrir les résultats d'entreprise de manière beaucoup plus soutenu et la plupart sont très positifs sur les perspectives d'Airbnb. Donc à chaque fois que finalement un nouvel analyste publie une évaluation positive, le titre gagne quelques pourcentages. Bon, c'est vraiment très impressionnant de voir la capitalisation d'Airbnb. Elle vaut en bourse plus de 120 milliards de dollars et donc c'est bien plus que Marriott, Hyatt et Hilton combinés. Évidemment, Airbnb est moins dépendant du tourisme d'affaires que les chaînes hôtelières et donc ça, ça fait une sacrée différence pour les investisseurs.
Depuis l'interview avec Isabelle, le titre a un peu baissé dans le sillage des valeurs technologiques qui souffrent de la hausse des taux aux États-Unis. Mais à 110 milliards de dollars, Airbnb vaut encore presque 4 fois plus que le géant hôtelier Hilton. Pourtant, Airbnb semble avoir longtemps hésité à franchir le pas de la bourse.
Oui, Brian Chesky disait que finalement il repoussait longtemps l'idée d'une introduction en bourse parce que en général il y a 4 raisons pour aller au Nasdaq ou à Wall Street. Le besoin de lever des fonds, faire connaître sa marque, financer des acquisitions, donc tout ça finalement c'était pas des raisons qui étaient importantes pour Airbnb. Et la quatrième, distribuer des dividendes aux actionnaires. Cette année finalement rétrospectivement, la mise en bourse ça a permis de valider le modèle économique dans des temps extrêmement chahutés. Nate Blekarczyk disait que finalement, il a pris ça comme une relégitimation de son modèle par les marchés et aussi l'appréciation que finalement, le trio de fondateurs est très uni et il peut l'être même dans des temps difficiles et quand il y a des décisions horribles à prendre comme les licenciements, ils ont montré qu'ils pouvaient passer le test.
La crise sanitaire n'est pas terminée, le trafic aérien est toujours aussi peu actif, il y a beaucoup d'interrogations sur les vacances du printemps, notamment en France où la vaccination n'avance pas très vite. Ils sont prêts pour l'après ?
Oui, alors Brian Chesky disait que le voyage va revenir et qu'ils seront prêts. Il donnait un chiffre qui a été réalisé aux États-Unis. En fait, 54% des Américains auraient déjà fait leur réservation pour l'été prochain. Donc ça montre quand même un sacré optimisme où ils y seraient en train d'y travailler. Donc avec la vaccination, évidemment, les voyages devraient reprendre et ça devrait profiter à Airbnb. Il y a d'ailleurs un nouvel outil qui vient d'être lancé pour l'instant seulement aux États-Unis et qui montrent quelle forme le voyage pourrait prendre dans les prochains mois. Il y a des critères de recherche en fait beaucoup plus flexibles qu'auparavant. Avant, on réservait un Airbnb pour une destination fixe et à une date fixe, alors qu'aujourd'hui, les critères de recherche permettent de réserver un séjour d'un week-end, une semaine, un mois, sans savoir vraiment où on veut aller. Et le site peut répondre à cette demande très flexible. En fait, les fondateurs pensent qu'il y aura tout d'abord un effet de rattrapage une fois que la vaccination sera développée. Évidemment, les gens ont été tellement frustrés de ne pas pouvoir voyager qu'ils vont reprendre sans doute leur voyage et leur séjour avec une fréquence accrue par rapport aux années précédentes. Et puis, à terme, les frontières, finalement, entre le lieu où l'on habite, le lieu où l'on travaille et le lieu où on fait ses loisirs se sont estompées. Ned Blekarczyk dit que c'est une nouvelle vie après Zoom. Et ça pourrait beaucoup servir Airbnb, puisqu'on pourrait louer finalement des locations d'où on télétravaillerait une partie du week-end, par exemple.
Et au-delà de ça, le groupe est parfaitement implanté maintenant dans toute la France. Hein.
Oui, tout à fait. C'est son deuxième marché en fait au monde et Paris reste la capitale mondiale d'Airbnb.
Des agents de la mairie de Paris à la recherche de logements Airbnb illégaux. En épluchant les annonces de la plateforme, dans les 8 arrondissements les plus fréquentés par les loueurs, ils ont trouvé plus de 1000 offres qui n'étaient pas en règle.
La presse, ça pourrait être aussi les mesures prises par les gouvernements ou les villes pour limiter les effets du surtourisme ou pour venir soutenir le secteur de l'hôtellerie laminé par la crise. C'est ce qu'on entend ici dans ce reportage de France 3. Isabelle, c'est un risque pris au sérieux par la plateforme ?
Oui, c'est un énorme risque pour Airbnb. Alors, sur les 200 plus grosses villes où Airbnb est implanté, des accords ont été passés avec 70 de ces villes pour encadrer la location de longue durée. Donc 70 sur 200, c'est pas si mal, mais ça reste en fait cette menace réglementaire, une épée de Damoclès dans plein d'endroits de la planète, notamment à Paris, donc capitale mondiale d'Airbnb. On l'a vu très récemment puisque finalement en février, la Cour de cassation a validé la réglementation mise en place par la ville de Paris pour encadrer les longues durées et elle a permis donc à Airbnb de reprendre ses poursuites contre 420 bailleurs qui avaient loué au-delà des 120 nuitées autorisées par an. Donc on voit que c'est un secteur en constante évolution dont il faut évidemment mesurer l'impact. À San Francisco, il y a eu des mesures très restrictives qui ont été prises en 2018. Et à la suite de cette nouvelle réglementation, le nombre d'annonces a été divisé par deux. On est passé de 10 000 à 5 000 propositions de logement. Donc ça reste de loin le principal point faible du modèle Airbnb, même s'il est relativement populaire auprès d'un grand nombre de voyageurs.
Merci Isabelle Lesniak, journaliste aux Echos Weekend, pour ce séjour chez Airbnb, nouveau géant du tourisme. Avec ses 5,5 millions de propriétés en location, ses 825 millions de réservations depuis la création du site, un dernier chiffre signalé par Isabelle, un hôte gagne en moyenne 7 900 $ par an. C'est ce qui s'appelle mettre du beurre dans les épinards. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Avec la rédaction du journal, on vous fait découvrir tous les jours les coulisses de l'actualité économique. On décrypte un sujet en une vingtaine de minutes. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts comme Spotify ou Apple Podcasts et à recommander la Story à tous ceux qu'elle pourrait intéresser. Et pour suivre l'actualité de Airbnb et du tourisme à travers nos articles, analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year 100,000-mile powertrain and 5-year 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.